Le journal présenté par François Comte.
Madame, monsieur, bonjour. C'est la fin pour Bachar el-Assad et son régime en Syrie. Les rebelles islamistes se sont emparés de Damas et le président syrien a fui le pays. Ils ont réussi à provoquer la chute du régime en moins de 2 semaines. Le marché de Noël de Saint-Ursanne bat son plein. La météo était maussade hier, mais pas de quoi entamer le moral des visiteurs et des marchands. 120 exposants sont présents cette année dans la cité médiévale. Hockey sur glace, le HC Ajoie a renoué avec la victoire à domicile. Les Jurassiens ont battu Lausanne hier soir 4 à 3 après prolongation. En ski alpin, Marco Odermatt a remporté hier le Super G de Beaver Creek. Météo, l'après-midi pourrait nous réserver un peu de répit au niveau des averses. Le risque de pluie ou de bruine va toutefois à nouveau augmenter ce soir et dans la nuit. La bise devrait s'installer demain. Le régime de Bachar el-Assad est tombé en Syrie. Les rebelles menés par des islamistes radicaux ont annoncé aujourd'hui la chute du président syrien et la libération de la capitale Damas. Leur offensive qui a démarré il y a moins de 2 semaines a mis un terme à plus de 50 ans de règne de la famille Assad sur le pays. Bachar el-Assad a pris la fuite pour une destination qui reste inconnue pour l'instant. L'homme a dirigé la Syrie d'une main de fer pendant plus de 20 ans. Il avait notamment réprimé dans le sang les manifestations pro-démocratie de 2011 qui s'étaient transformées en guerre civile. Cléa Robert.
Plusieurs dizaines de personnes ont rallié le centre de Damas aujourd'hui pour célébrer la chute du régime de Bachar el-Assad. Les rebelles ont annoncé avoir libéré tous les prisonniers injustement détenus et appelé à sauvegarder les biens de l'État syrien libre. Ils avaient précédemment indiqué que le président syrien avait fui le pays et proclamé la ville de Damas libre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, Bachar el-Assad a quitté la Syrie via l'aéroport international de Damas avant que les membres des forces armées et de sécurité n'abandonnent le site. Le premier ministre syrien s'est dit prêt à coopérer avec tout nouveau leadership choisi par le peuple. De son côté, le chef des rebelles islamistes a appelé ses combattants à ne pas s'approcher des institutions publiques et a précisé que celles-ci restaient sous contrôle du premier ministre jusqu'à une passation officielle du pouvoir. La Maison-Blanche a indiqué que le président américain Joe Biden suivait attentivement les événements extraordinaires en cours en Syrie.
Elle n'avait plus résonné depuis 5 ans entre les murs de Notre-Dame de Paris. La première messe depuis la réouverture de la cathédrale s'est tenue ce matin. Notre-Dame de Paris a officiellement rouvert ses portes hier soir, 5 ans après le terrible incendie dont l'édifice avait été victime. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux chefs d'État, dont le président américain élu Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. La fermeture de l'usine de cigarettes Beaté à Boncourt fait désormais l'objet d'un documentaire. Le film Les cendres de l'industrie a été réalisé par le Genevois Laurent Grenicher. Le documentaire retrace l'histoire de l'entreprise fondée et dirigée par la famille Burus avant d'être cédée à la multinationale BAT qui a décidé en 2022 de fermer l'usine. Il est composé d'archives ainsi que d'interviews d'anciens employés, de personnalités du village. Le film a été projeté ce matin à Boncourt et sera diffusé mercredi prochain sur RTS1. Laurent Grenicher avait été mandaté à la base pour suivre la crise sociale qui résulterait de la fermeture de l'usine. Mais il a toutefois changé son fusil d'épaule en cours de route.
Au fur et à mesure que le sujet se développait, c'est devenu très clair qu'il y avait une espèce de confrontation naturelle entre deux systèmes, c'est-à-dire d'un côté une espèce de patriarcat, un christianisme social qui était défendu historiquement par la famille Burus, très incarné, avec des gens que tout le village connaissait, et puis de l'autre côté, une multinationale dont on sait que finalement, c'est seulement le rendement qui est intéressant et dont on n'a aucune idée de qui dirige quoi. Donc en fait, c'était vraiment tout d'un coup assez évident que le film pouvait se construire autour de ces deux incarnations totalement différentes de ce qu'est un système économique ou de ce qu'est la responsabilité sociale d'une entreprise sur une région.
Ce qui est très marquant aussi dans le film, c'est vraiment le poids de la famille Burus à l'époque où elle dirigeait cette entreprise. C'est quelque chose qu'on a aujourd'hui un peu de peine à réaliser, la place, l'importance de cette famille pour l'entreprise, pour le village, pour la région.
En fait, ce qui s'est passé pendant la fabrication du film, c'est que je l'ai montré à 2-3 personnes en cours d'évolution et les jeunes générations étaient absolument sidérées finalement de l'importance qu'a eu la famille Burus pour la région avec cette entreprise. crise. Et du coup, je me suis rendu compte que cette forme économique de christianisme social laissait les jeunes générations totalement dubitatives et ils se disaient « mais c'est complètement fou qu'une famille ait pu avoir eu un impact aussi fort sur une communauté ». Et c'est ce qui a fait que petit à petit, le film s'est orienté vraiment sur la description. Alors évidemment, rapide, hein, c'est un film de 52 minutes, c'est pas non plus une saga ou une série. On pourrait faire une série d'ailleurs, mais en l'occurrence, oui, c'est devenu très clair que ce qui intéressait les gens, en particulier ceux qui n'avaient pas idée de l'importance de la famille Burrus pour la région, bah c'était ça qu'il fallait mettre en avant.
Le film de Laurent Grenicher, Les cendres de l'industrie sur la fermeture de l'usine Beaté à Boncourt, sera diffusé mercredi prochain à 23h10 sur RTS1. L'ambiance de Noël s'est emparée de Saint-Ursanne, malgré une météo pas forcément au rendez-vous. Le marché de Noël a démarré hier et se tient jusqu'à ce soir dans les rues de la cité médiévale. La manifestation vit sa 26e édition. Elle se déroule à nouveau sur un week-end alors qu'elle s'était étalée sur deux fins de semaine. L'an dernier, pas moins de 120 marchands sont présents cette année. Reportage hier soir sous la pluie au marché de Noël de Saint-Ursanne.
Moi je m'appelle Michel Pietronigro, j'habite à Saint-Ursanne.
Il y a des objets en particulier qui vous intéressent ?
Moi j'aime bien les bougies, après les décorations, j'achète pas forcément, c'est plutôt pour la beauté, pour voir un peu toutes ces lumières, puis voir du monde.
Mais vous avez quand même, là où on est devant un stand de bougies, cédé à la tentation.
Oui, tout à fait, pour mon petit-fils.
Le petit-fils c'est lui, comment tu t'appelles ?
Oui. Liam.
Alors Liam, qu'est-ce que tu aimes ici ?
Les bougies, un peu tout.
Moi, c'est Monique Renaud, j'habite à Basse-Cour. J'aide ma sœur, on vend de l'artisanat, de la pâte à sel. Ma foi, la météo n'est pas droit avec nous. Mais bon, il y a quand même l'ambiance de Noël. Le marché de Saint-Ursanne, on aime beaucoup. C'est le plus beau marché.
Rémermé David, j'habite Delémont depuis 3 ans. Et à la base, je suis valaisan. Et là, je suis au stand des pains d'épices.
La dégustation, elle est plutôt concluante ?
Oui, très. D'ailleurs, je vous en conseille un, c'est à l'orange. Il est très bon. J'adore cette ambiance de Noël, ça me rappelle beaucoup mon enfance, oui.
Boucher David, Alsace.
Vous fabriquez du pain d'épices, vous venez souvent ici à ce marché à Saint-Ursanne ?
C'est la première fois. Par le temps, ça se passe bien.
Les Suisses, les voisins suisses, ils sont sympas ?
Ah, très sympas, oui, plus que chez nous.
Offert Jérémy, je habite à Seux, première fois que je viens. Franchement, c'est pas si mal, je trouve assez épuré. Du coup, enfin voilà, les gens ne sont pas agglutinés les uns sur les autres. En même temps, ce marché permet aussi de faire le tour de la ville. Donc ouais, franchement, c'est vraiment bien.
Vous êtes venu pour chercher quelque chose en particulier ? Ben vraiment pour l'ambiance.
Oh, pour l'ambiance, boire un petit vin chaud et passer un bon petit moment.
Jeanne Alice de Seigne-Légier.
Vous venez chaque année ici au marché de Noël ?
Oui, chaque année, oui. À la base, j'ai un stand depuis 8 ans, mais là, je fais pas cette année. Visiteuse.
Puis visiteuse, c'est mieux que vendeuse.
C'est plus tranquille. Puis quand j'ai vu la météo ce matin, je me suis dit que j'étais bien contente d'être à la maison.
Alors, Hugues Alain Bron de Boycourt. Chaque année, on vient faire un tour et puis on profite de ce qu'ils nous présentent et puis on fait quelques achats pour Noël. Ça nous donne des idées. Des fois, c'est des choses comme des lampes qu'on a vues derrière nous, là, qui sont intéressantes, qui nous plaisent et puis on se dit pourquoi pas, quoi.
Ce marché de Noël à Saint-Ursanne, ici, pour vous, qu'est-ce qu'il a de particulier ?
Mais déjà, l'ambiance dans la ville, c'est fermé. On se sent un peu enfermé dans un cocon, et puis je trouve, ouais, c'est vraiment sympa, ça se prête bien, ça, quoi.
Madame, vous aussi ?
Oui, pour moi, c'est pareil, hein, l'ambiance, ouais, les lumières, c'est vraiment un peu l'esprit de Noël, et puis c'est chaleureux.
Pour vous, c'est quoi l'esprit de Noël ?
Ben, c'est la famille, ouais. C'est une fin d'année aussi, c'est aussi les vacances, c'est reposant, on se fait plaisir, et puis c'est un mélange de tout ça, quoi, ça apporte un bien-être.
Le marché de Noël de Saint-Ursanne se poursuit donc aujourd'hui jusqu'à 19h.
Ah, vous écoutez RFJ, il est 12h24.
Sport. Hockey sur glace, le caractère ajoulo a pris le dessus sur l'âpreté vaudoise. Le HC Ajoie s'est offert le scalp de Lausanne hier soir dans le championnat de National League, Florian Wolfer.
Le HCA s'est imposé 4-3 après prolongation contre les Vaudois à Porrentruy. Les hockeyeurs jaunes et noirs ont dû se retrousser les manches pour faire chuter le troisième du classement et mettre fin à une série de 2 revers consécutifs. Mené 3-1 à la 55e minute de jeu, le HCA Joie a fait parler la poudre en jeu de puissance avant de connaître un dénouement heureux à Porrentruy. Son attaquant Matteo Romanenghi.
On a mérité de gagner, c'est sûr. Peut-être oui, dans la 60 on a mérité de faire les 3 points, mais si Lausanne c'est une équipe forte et je pense qu'on prend les 2 points, oui.
On a vu Lausanne beaucoup jouer sur un jeu physique à la limite de la régularité. Est-ce que ça vous a surpris ça de voir le troisième du championnat adopter ce jeu-là ici à Porrentruy?
Non, je pense que surtout on était prêts et après on a parlé avant et on a dit que si nous on veut cette ligne de match ce soir et on a fait et je pense que c'était un match avec beaucoup d'émotion et c'était beau, oui.
On a vu aussi votre entraîneur prendre des risques sur la fin de match, dans la prolongation. Vous avez été surpris, vous, depuis le banc, de voir tout à coup le gardien sortir à jouer à 5 contre 3 dans la prolongation?
Non, c'est une chose qui... Oui, ça passe pas souvent, mais ils ont parlé avant d'aller sur la glace, les 4 qui sont allés. Oui, tout le monde était prêt. C'est pas réussi, mais c'était un bon essai.
Le HC Ajoie revient à 9 points des 12e et 13e du classement. Pour y parvenir, l'entraîneur Greg Ireland a beaucoup misé sur ses joueurs clés. Plus de 25 minutes de jeu pour Pierre-Édouard Belmar et Julius Nettinen, plus de 29 pour Anthony Onka. Tout cela alors qu'Ajoie enchaîne dès cet après-midi à Fribourg. Pas de quoi inquiéter Matteo Romanenghi.
Oui, je pense que tout le monde ici, ils ont beaucoup d'expérience sans gestir cette situation et je pense que ce ne sera pas un problème, oui.
Ça ne nécessite pas une récupération particulière?
Non. Ils ont beaucoup d'expérience et sans qu'est-ce qu'ils doivent faire, oui.
Un dossier signé Mathieu Schaffner. Le HC Ajoie prend donc la route de Fribourg cet après-midi à 15h45 pour son dernier match avant la pause internationale de décembre. Ce déplacement est à vivre en direct sur RFJ avec le commentaire de Michel Léoni dès 15h30. Rapperswil se sépare de son entraîneur. Le club de National League a annoncé ce matin libérer le Suédois Stefan Edlund de ses fonctions avec effet immédiat. La situation est compliquée depuis plusieurs semaines dans le club saint-gallois qui ne compte que 3 victoires lors de ses 15 derniers matchs. L'intérim sera assuré par Johan Lundskog, Fabien Gunnarsson et Yannick Steinmann. Marco Odermatt brille dans le Colorado. Le skieur nidwaldien a remporté hier le Super G de Coupe du Monde de Beaver Creek. Après une deuxième place en descente vendredi, Odi a cette fois devancé son rival français Cyprien Sarrazin et l'Autrichien Lucas Feuerstein de respectivement 18 et 47 centièmes. Il nous livre ses impressions après ce premier succès de l'hiver et sa 38e victoire sur le cercle blanc. Marco Odermatt.
C'était très très difficile aujourd'hui avec toutes les conditions et la course était très vite mais aussi très tournée et comme ça tu dois aussi skier avec la tête.
C'est important cette victoire, ça va vous libérer d'un poids?
Oui bien sûr, et la première week c'est toujours très très joli et bien sûr hier avec juste c'était peut-être un peu plus émotion mais aussi c'est très très joli aujourd'hui.
Des propos recueillis par notre confrère de ski actu Johan Tachet. Les autres Suisses ont terminé plus loin hier. Gino Caviezel a pris la 7e place et Justin Merisier, vainqueur la veille, a dû se contenter d'un 17e rang. Les Helvètes auront encore une course pour s'illustrer dans le Colorado. Après une descente et un super G, place ce soir à un géant. La première manche est programmée à 18h. Un top 20 pour Romuald Brosset à Antalya. L'athlète jurassien s'est classé 16e de la course des moins de 20 ans lors des championnats d'Europe de cross-country qui se tenaient ce matin en Turquie. La joueuse du club de Fontenay a couru les 4812 mètres en 14 minutes et 25 secondes. Il termine ainsi à 18 secondes du vainqueur, le néerlandais Niels Laros. Romuald Brosset a été le meilleur des 5 Helvètes à l'arrivée de cette course où une nonantaine d'athlètes ont été classés. Le volleyball Franche-Montagne tentera de lancer son deuxième tour par une victoire. La formation de Liga se déplace dans la salle de Guin cet après-midi à 13h30. Le VFM reste sur 2 défaites consécutives en championnat. Il cherchera à inverser la tendance face aux vice-champions de Suisse en titre que les joueuses de Mélanie Chila avaient battu 3-0 en ouverture de saison. Et enfin, le BC Boncourt accueille son voisin au Chaudron cet après-midi. Les basketteurs jurassiens affrontent Petit Bâle à 16h à domicile en Ligue B. Le BCB tentera de décrocher un deuxième succès cette saison face à une équipe du milieu de classement. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Bonne fin de journée.